Eh bien, les historiens nous apprennent qu'il y eut à Rome de bons et de mauvais empereurs, et naturellement, les mauvais ont été plus nombreux que les bons. Parmi ceux qui n'ont pas laissé un très bon souvenir dans l'histoire romaine, le premier en date est Tibère. Il faut dire tout de suite que Tibère a trouvé chez les historiens modernes des défenseurs très convaincus. Mais il y a un fait qui est certain, c'est que c'est un empereur qui a été à Rome très impopulaire, puisque, à sa mort, le peuple a crié dans les rues « Tibère au Tibre ». Pierre Grimal, la première question que je voudrais vous poser, c'est de savoir d'où vient cette impopularité.
Il a été effectivement impopulaire. D'autre part, il a été jugé sévèrement par les auteurs dont nous possédons les œuvres. Mais il y avait aussi d'autres historiens qui le jugeaient favorablement. Et nous possédons l'un de ces auteurs, qui est Velleius Paterculus. On nous dit, oui, mais Velleius Paterculus est un courtisan. Bon, il reste à savoir si les autres ne sont pas médisants. Quoi qu'il en soit, Tibère, à la fin de sa vie, n'a pas été en odeur de sainteté auprès du peuple romain. Il le devait à plusieurs causes. D'abord, c'était un homme austère et qui n'aimait pas les fêtes, qui répugnait à donner des jeux au peuple. Et Sénèque nous raconte même que un célèbre gladiateur de cette époque s'en plaignait en disant « Quelles belles années passent inutilement ». Et pourtant, c'était un gladiateur, moriturit et salutant. Donc, il ne cherchait pas à plaire au peuple. C'est un empereur très peu démagogue. Et puis, surtout, il avait disparu pendant très longtemps. Il était resté en Campanie et dans sa villa de Capri, sans revenir à Rome. Et cela, le peuple le lui pardonnait mal. Un empereur, c'était, comme plus tard les papes, la chose de la plèbe romaine.
Il y avait donc, au départ, une question de personnalité.
Sans aucun doute.
On a raconté que Tibère à Capri se livrait à des orgies démentes. Est-ce que ce sont des ragots, justement, qui avaient pour source cette impopularité? Ou est-ce qu'effectivement, Tibère est devenu, à la fin de sa vie, lui qui avait été, je crois, un homme très équilibré et très sage, est devenu une sorte de monstre orgiaque?
Vous savez, c'est très difficile d'arriver à la vérité en de pareilles matières. Mon maître Carcopino a consacré un article assez long et extrêmement intelligent au problème de la moralité de Tibère à Capri. Il a montré ou essayé de montrer que beaucoup des accusations portées contre lui étaient des inventions. C'est très possible. Il y a eu, surtout après la mort de Tibère, de petits livres qui ont, des libelles qui ont circulé sous le manteau et dans lesquels on salissait sa mémoire. Nous ne pouvons absolument pas être certains du détail de ce qui se passait à Capri. Mais surtout ce qui est frappant, c'est l'importance que les historiens antiques et les historiens ou pseudo-historiens modernes ont attaché à cette vieillesse de Tibère. Au fond, il n'apparaît pas très important dans l'ensemble de l'histoire de l'Empire de savoir comment Tibère occupait ses loisirs.
Oui, effectivement. Mais je posais la question parce que le peuple et probablement aussi le Sénat, du moins une fraction du Sénat, pendant le règne de Tibère, lui a opposé un homme qui est presque l'image inversée de celle qu'on se faisait effectivement à Rome de Tibère. En ce sens que Germanicus, puisqu'il s'agit de Germanicus, possédait toutes les qualités que ne possédait pas Tibère, du moins on les lui prêtait, et il n'en avait pas non plus les défauts. Qui était Germanicus ?
Germanicus, c'était un descendant de Marc-Antoine. C'était un neveu de Tibère. Et il avait derrière lui le passé prestigieux du triumvir vaincu, qui avait tout de même conservé des partisans dans la plèbe et surtout en Orient. Et puis, c'était un père de famille nombreuse, tandis que Tibère était sans enfant. Tout au moins, Tibère, à la fin de sa vie, n'avait plus d'enfant auprès de lui. Et puis Germanicus, c'était un homme qui avait remporté des victoires sur le champ de bataille, qui avait combattu en Germanie. Tibère aussi, c'est vrai. Mais on avait plus vite oublié les victoires et les exploits militaires de Tibère que ceux de Germanicus, qui étaient plus récents. Et puis, Germanicus avait été extrêmement servi, la mémoire de Germanicus extrêmement servie par les circonstances de sa mort.
Et alors, dans les faits, cette opposition entre les deux hommes a fini par se cristalliser en quelque sorte. Il faut dire ici que lorsque Tibère est arrivé à l'Empire, je crois Germanicus exerçait un commandement en Rhénanie. Et dès l'arrivée au pouvoir de Tibère, il y a eu une révolte des légions, révolte à laquelle Germanicus a été mêlé. Alors le problème qu'on se pose, c'est de savoir si quel a été effectivement le motif de cette révolte. Est-ce qu'il s'agit d'un conflit dynastique, puisque nous avons dit précédemment qu'à Rome, les règles de transmission sont relativement imprécises, ou est-ce qu'il s'agit d'une révolte des soldats qui n'a rien à voir avec Germanicus?
Je crois qu'il y a plusieurs facteurs à considérer. Il y a d'abord un certain mécontentement. Les soldats, sous le règne d'Auguste, avaient été maintenus dans une sorte d'inaction, de paix forcée, tout au moins depuis quelque temps. Auguste, après les désastres de Germanie, se refusant à entreprendre des expéditions profondes au-delà des frontières. Alors, c'était un manque à gagner pour les soldats, qui n'avaient pas de butin, etc. D'autre part, l'inaction, même lorsqu'elle est compensée par des travaux publics assez durs, de construction de digues, de routes ou de canaux, tout ça, ça ne satisfait pas beaucoup l'ardeur guerrière des soldats. Et on avait maintenu les soldats trop longtemps avant de leur donner leur retraite, qui comportait une somme d'argent et puis aussi des terres, très souvent. Si bien qu'il y avait un mécontentement dans l'armée. Et à la mort d'Auguste, les soldats se considérèrent comme déliés du serment qu'ils avaient prêté à l'empereur, qui était leur impérator, leur chef militaire. Alors, ils essayèrent d'obtenir un sort meilleur, et comme Germanicus était extrêmement populaire auprès d'eux à cause de son caractère chevaleresque, de sa beauté, de son activité, etc., puis aussi à cause du fait qu'il avait toute sa famille autour de lui. On aimait bien le général, on aimait les enfants du général, parmi lesquels Caligula, n'est-ce pas? Et alors, cette popularité fit que les soldats le choisirent comme impérator.
Donc, Germanicus n'a pas fomenté cette révolte, d'une part?
Certainement pas.
Et il était loyal à l'égard de Tibère.
Il l'était. Il suppliait les soldats avec des larmes, n'est-ce pas, de ne pas lui offrir quelque chose qu'il ne pouvait pas accepter.
Il n'a pas essayé d'exploiter donc la situation.
Absolument pas.
Et alors, paradoxe, ou du moins fait tout à fait surprenant, un peu plus tard, Germanicus meurt en Orient. Et on accuse Tibère de l'avoir fait supprimer par l'intermédiaire de Pison, je crois, parce que Tibère aurait vu en lui un rival dangereux, et d'autant plus dangereux que Germanicus possédait cette sorte de, je ne veux pas dire de gentillesse, mais il était affable et il était avenant, il était ouvert, et il était de ce fait extrêmement populaire. Alors, est-ce que on peut dire que Tibère a supprimé Germanicus?
C'est encore un de ces dossiers de l'histoire qui n'admet pas une conclusion très nette. les preuves médicales que Tacite et Suétone apportent en faveur de la thèse de l'empoisonnement nous semblent aujourd'hui extrêmement faibles. Le cadavre aurait noirci, etc., etc. Scientifiquement, on ne peut pas conclure. Il est possible que, effectivement, il y ait eu au moins tentative de Pison pour supprimer Germanicus. Ce qui tendrait à le faire croire, c'est le procès de Pison. Sous la pression de l'opinion publique, Tibère fut obligé de mettre Pison en accusation. Et Pison se répandait en propos mystérieux, disant que le jour du procès, on verrait ce qu'on verrait et qu'il donnerait la preuve qu'il avait agi sur ordre. Sur quoi Pison disparut lui-même, mourut dans des conditions assez obscures, et cela laisserait croire tout de même que l'affaire n'est pas aussi claire que on pourrait le souhaiter pour l'honneur de Tibère. Maintenant, il faut aussi voir les choses politiquement et non pas au point de vue de la morale ordinaire. Germanicus était parti en Orient et là, il s'était conduit en maître. Il avait retrouvé le souvenir d'Antoine, son ancêtre, et contre toutes les instructions formelles données par Tibère, il avait pénétré en Égypte. Il s'était livré à une enquête en Égypte sur la situation du pays, et il s'était intéressé aussi au phénix, parce que, paraît-il, cet oiseau merveilleux venait d'apparaître. Il semble que Germanicus soit imprudence, soit pleine conscience et pleine volonté, se soit comporté en Égypte comme un pharaon, comme le successeur d'Antoine qui avait été roi du pays. Le phénix était un oiseau royal et la seule présence de Germanicus en Égypte pouvait provoquer un mouvement en sa faveur, un mouvement dans tout l'Orient, et finalement constituer une menace pour la paix de l'Empire. Alors, il n'est pas du tout impossible que Tibère ait souhaité le faire disparaître.
Mais dans cette affaire, au-delà d'une rivalité personnelle qui est possible mais qui n'est pas certaine, il y a deux conceptions politiques différentes. Lesquelles ?
Je vous disais que Tibère a probablement été un empereur républicain. C'est-à-dire qu'il représentait dans le gouvernement romain, le gouvernement de l'Empire, au fond, l'esprit augustéen de partage avec le Sénat. L'empereur comme arbitre un peu lointain, et le Sénat, les magistrats réguliers, exerçant la réalité de l'administration de l'Empire. Au contraire, Germanicus incarnait l'esprit monarchique, l'esprit royal, d'abord en Orient, par ses attaches familiales, et puis aussi à cause de sa grande popularité auprès de l'armée, et aussi auprès du peuple. Car le roi est souvent l'homme qui a été plébiscité et qui est désigné par la volonté populaire. Les historiens antiques, Suétone et Tacite essentiellement, voient les choses du point de vue du Romain, comme maintenant les intellectuels français ont tendance à tout voir du point de vue parisien. Mais en réalité, Tibère se rendait compte que l'opinion de Rome, si elle était importante, n'était pas tout, qu'il y avait les provinces, et que des révolutions, des révoltes pouvaient naître aux frontières avec les armées, dans les provinces avec la complicité des provinciaux, des habitants, et que par conséquent, il fallait éviter ce danger. Il avait tellement raison que c'est précisément des provinces que, en 68, vinrent les grands dangers, les périls qui finirent par détruire Néron.